France Musique. Musicopolis. Marie-Antoinette, une reine bien musicale.
Ma reine, venez. Vous chantiez si divinement cet air de Puccini. Reprenez-le, je vous en supplie.
Pas ce soir.
Si, venez. Il ne faut pas leur offrir le plaisir de vous croire malheureuse.
Dans les contes de fées, petites filles et jeunes filles aspirent à devenir reines. Pourtant, si l'on en juge par la vie de Marie-Antoinette, et je parle bien de sa vie et pas de sa mort, ça n'est pas une sinécure que ce métier. Certes, il y a bien quelques avantages matériels, mais au prix d'une restriction des libertés vraiment drastique. En particulier en France, où l'étiquette élaborée de toutes pièces au temps de Louis XIV comme démonstration de son pouvoir est particulièrement contraignante. Un choc pour la jeune archiduchesse de 14 ans et demi qui débarque à Versailles en 1770 pour épouser le dauphin Louis de France. Lorsqu'elle était enfant et jeune adolescente à Vienne, Marie-Antoinette d'Autriche, Maria Antonia, a eu une vie plutôt agréable. Avant-dernière des 16 enfants de l'impératrice Marie-Thérèse et de son époux François Ier, elle a profité d'une vie de famille assez cosy, malgré son rang. Elle a reçu une éducation plutôt d'agrément, sans aucune notion de politique, mais avec beaucoup de musique et de danse. Dans ses bagages pour venir en France, une harpe, son instrument favori. C'est pour unir durablement les deux grandes puissances européennes, la France et l'Autriche, que l'impératrice Marie-Thérèse a souhaité faire épouser sa benjamine Marie-Antoinette au dauphin Louis. Les princesses, tout comme les princes d'ailleurs, ne sont pas considérées comme des individus dont on doit respecter les désirs. Ce sont plutôt les pièces d'un échiquier que les souverains cherchent à placer au mieux de leurs intérêts dans le grand tournoi de la politique. Ensuite, ils devront procréer pour assurer leur descendance et perpétuer la lignée. Ce qui n'est pas obligatoirement une partie de plaisir. Une fois Marie-Antoinette d'Autriche arrivée à la cour de France pour se marier avec le dauphin Louis, elle va avoir beaucoup de mal à se plier aux règles de cette cour si différente de celle qu'elle a quittée. Elle est soutenue de loin par sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui lui prodigue beaucoup de conseils et qui la fait surveiller par le comte de Mercy-Argenteau, son ambassadeur en France. Il semble bien qu'au début de son séjour, la jeune femme, c'est encore une adolescente, ait surtout envie de s'amuser, notamment d'aller au bal masqué de l'opéra. Mais en suivant les conseils de sa mère, elle essaye de consacrer plus de temps à la lecture et d'améliorer ses talents en prenant des leçons de danse et de musique. Elle fait même donner de temps en temps chez elle des petits concerts où, selon l'ambassadeur, elle se montre charmante, attentive envers tout le monde, marquant avec jugement et dignité des bontés à chacun et donnant par là un spectacle de grâce et d'agrément qui, depuis longtemps, n'était plus connu de cette cour-ci. Pour l'ambassadeur d'Autriche et pour l'impératrice Marie-Thérèse, inciter la jeune Marie-Antoinette à faire de la musique fait partie d'un vaste programme qui vise à multiplier les occasions d'amusement qui arrachent à l'oisiveté et à l'ennui. On espère ainsi qu'elle ne commettra pas d'impair, qu'elle ne se livrera pas aux confidences avec des personnes malveillantes qui pourraient ensuite lui nuire. L'ambassadeur note qu'elle continue à aimer la musique, qu'elle y fait des progrès et qu'elle a un goût tout particulier à jouer de la harpe. Le dauphin Louis de France, comme son grand-père Louis XV, n'est pas un grand mélomane. Néanmoins, la musique est très présente dans la vie. Elle accompagne de nombreux moments de la vie quotidienne et bien sûr tous les événements exceptionnels. Le sacre de Louis XVI, par exemple, en 1775, est l'occasion d'une commande à François Girouste, récemment nommé sous-maître de la Chapelle Royale, et qui alimente depuis longtemps en grand motet les soirées du concert spirituel. Marie-Antoinette continue ses leçons de harpe très régulières et aussi les petits concerts dans ses appartements. Mais elle est aussi très amatrice de spectacles, en particulier d'opéra, qu'elle aime beaucoup qu'on vienne lui représenter chez elle. Certains sont très complets avec beaucoup de machines et de musiciens et chanteurs. Il est trop coûteux de les faire venir jusqu'à Versailles. Pour ces occasions donc, la reine et le roi se rendent à Paris.
Chantons, c'est le grand, notre rêve, l'hiver qui se sait comment chanter. Faire courant à jamais.
En 1773 est arrivé à Paris un célèbre compositeur autrichien qui a été le professeur de chant de Marie-Antoinette lorsqu'elle était jeune fille à Vienne, le chevalier Gluck. Invité par l'Académie royale de musique à composer plusieurs opéras, il a donné avec grand succès Iphigénie en Aulide en avril 1774. Mais la mort de Louis XV a interrompu les représentations. Lorsqu'elles reprennent l'année suivante, Marie-Antoinette y assiste, les Parisiens l'applaudissent et ils bissent le cœur « Chantons, célébrons notre reine ». La reine Marie-Antoinette défend la musique de Gluck, son compatriote et ancien professeur. Mais elle aime également beaucoup celle de Grétry, compositeur français d'origine wallonne. C'est un opéra de Grétry qui a été donné pour son mariage avec le dauphin, lors de son arrivée en France. Et lorsqu'elle devient reine, elle le nomme directeur de sa musique personnelle. Lorsque Louis XVI est devenu roi, Marie-Antoinette lui a demandé une maison de campagne. Il lui a donné une demeure située à 3 km du château de Versailles, dite le Trianon. La reine aime s'y retrouver avec ses amis, en dehors de l'étiquette et des horaires très stricts de la cour. Elle y organise des concerts, bien sûr, on joue et on chante, notamment des romances à la mode. Dure qu'un moment. Les années passant, la reine Marie-Antoinette continue à prendre des cours de harpe. « On trouve que j'y fais des progrès », écrit-elle à sa mère. Le peintre Gautier d'Agoty l'a représentée au milieu de sa chambre à Versailles, jouant de la harpe pour une petite cour de quelques dames et quelques messieurs réunis autour d'elle. Pour voir des spectacles, lorsqu'elle ne va pas à Paris à l'Académie royale de musique, c'est l'opéra qui vient à elle. Les premières années, ça se passe dans une des salles du château, puis un peu plus tard dans le tout petit théâtre qu'elle fait construire à Trianon. Tout petit théâtre, mais doté bien sûr de toutes les commodités d'un grand, avec quatre décors qui permettent de représenter à peu près toutes les pièces, parlées ou chantées, grand opéra ou opéra comique. Philidor, Monsigny, ils sont nombreux les compositeurs d'opéra comique à l'époque de Marie-Antoinette. Elle les soutient de son mieux, en allant voir leurs ouvrages à Paris, en les faisant venir à Versailles ou à Trianon. Le service des menus plaisirs, entièrement dédié, comme son nom l'indique, au plaisir du roi et de la reine, installe des scènes temporaires, ici ou là, dans le château ou dans le parc, ou dans les autres châteaux où la cour se déplace, Marly ou Fontainebleau. À Trianon, la reine reçoit quelques invités triés sur le volet, qu'elle choisit non pas en raison de leur rang, mais par affinité. Pour eux, elle se produit parfois elle-même sur la scène, dans le rôle de Colette du devin du village de Rousseau, par exemple.
Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeune fillette, allons danser sous les ormeaux, canon prenez vos chalumeaux.
Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeune fillette, allons danser sous les ormeaux.
Une chansonnette et pour avoir le cœur joyeux, dansons avec nos amoureux. Ne restons jamais seuls.
Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeune fillette. Allons danser sous les ormeaux, bien reconnus vos animaux.
À la ville en ferme, plus de printemps, mais sont-ils aussi vivants leurs aimants? Toujours courant, toujours chantant, plaisir sans arme. Nous leur conservons le type de musette.
Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeune fillette. Allons danser sous les ormeaux, car on va vivre au chalumeau.
Même si elle apprécie les compositeurs français, Marie-Antoinette est accusée de favoriser Gluck, son compatriote. Et elle doit faire en sorte de soutenir aussi d'autres compositeurs comme Piccinni ou Sacchini, des Italiens cette fois-ci.
Je ne me plaindrai pas.
Durant tout son règne, Marie-Antoinette fera résonner de musique les murs de Versailles, de Trianon, de Paris. Son projet n'est évidemment pas, comme celui de Louis XIV, d'affirmer la puissance du roi et de la France, mais plutôt de développer le plaisir musical. Par les séances intimes, les petits concerts de chambre, par les représentations d'opéra et d'opéra comique, et aussi par la danse, moment incontournable de la vie sociale. Comme ses sujets, Marie-Antoinette se livre à la joie du quadrille, autour d'un pianoforte ou dans une grande salle de bal où l'on peut s'étourdir au son d'une contredanse. Le final, une contredanse de la symphonie numéro 85 de Joseph Haydn, dite la reine de France, puisqu'elle était, dit-on, la préférée de Marie-Antoinette. L'ensemble Tafelmusik, dirigé par Bruno Weil. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Levasseur pour le mixage, Max James pour la réalisation, Clément Diaz pour les recherches et Hortense Leblouc pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.